Bonjour Nadim.
Bonjour Arnaud.
On continue avec notre dernier module consacré à une notion avancée sur la Key Directory qui va consister à monitorer un petit peu l'état de santé des contrôleurs de domaine. Donc on va aborder dans ce module tout un ensemble de thématiques relatifs à qu'est-ce qu'il faut que je fasse attention comme élément de ma configuration d'un contrôleur de domaine pour que ça se passe relativement bien comme opération dans mon environnement, dans ma prod. Donc on va regarder un petit peu ces différents domaines de préoccupation et on va voir que c'est assez vaste comme champ d'exploration. Donc on va se concentrer sur un certain nombre de points, mais il y en a bien d'autres qui mériteraient aussi de s'attarder plus en détail.
Donc effectivement Arnaud, nous avons vu trois gros chapitres liés à l'Active Directory, donc le DNS qui est très important pour le bon fonctionnement, derrière les deux types de réplication de l'AD et du sysvol qui permettent une Active Directory en bonne santé. Et puis, tout le reste, en quelque sorte, on va le remettre dans ce module, c'est-à-dire l'état de santé du serveur où est hébergé le contrôleur de domaine. Avant tout, c'est un serveur. Et puis, sur les différents services qui sont gérés par l'Active Directory.
Alors, configuration, vérifier l'état de santé général des contrôleurs de domaine, l'information concernant l'operating system, ça veut dire qu'effectivement, on va vérifier que l'OS est bien configuré, qu'il a bien les bons paramètres TCP/IP dont on a discuté, pour les informations DNS dont on a discuté au préalable, ça va être vérifié qu'on a un contrôleur de domaine. Alors, possiblement, maintenant, on va essayer de déployer des contrôleurs de domaine en 64 bits, hein, mais si on a des contrôleurs de domaine en 32 bits en 2003, il y a un certain nombre de préoccupations à avoir en matière de mémoire, notamment avec l'utilisation un petit peu, on va dire, légère parfois, des fameux /3GB et /PAE qui pouvaient se faire quand on avait des contrôleurs de domaine qui nécessitaient un petit peu plus de RAM. Avoir un monitoring précis sur les journées d'événements, c'est toujours une bonne idée, chose qu'on ne répétera malheureusement jamais assez. Les patchs de sécurité également. J'ai envie de dire, s'il y a bien un truc qui est facile à mettre à jour en entreprise, c'est les contrôleurs de domaine, parce qu'ils sont hautement disponibles. Ils sont déjà normalement redondants pour les clients, donc c'est un environnement qui par défaut est simple à patcher. Malheureusement, on se rend compte qu'encore, il y a quand même un certain nombre de clients qui ne mettent pas à jour systématiquement leur contrôleur de domaine, ce qui est tout à fait dommageable. Le DC étant point central de l'environnement, si on arrive à compromettre un DC, vous doutez bien que le reste n'en est que plus facile. Donc on applique les patchs de sécurité critiques dans les 7 jours qui suivent la publication du correctif, 7 ou 15 jours, ça dépend si on prend la recommandation du MSRC ou du groupe produit Active Directory. Mais tout ce qui est fac critique, ça peut être une exploitation, une élévation de privilèges. Donc du coup, sur un contrôleur de domaine, on applique ça relativement rapidement. Et puis,
le service de temps, qui est très important.
Voilà. Donc là, juste dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on doit se préoccuper sur le service de temps, Nadim?
Nous avons une recommandation des meilleures pratiques du service de temps. C'est-à-dire que le premier contrôleur de domaine de la forêt, qui a le rôle des simulateurs, va être notre source de gestion de temps de la forêt. Mm-hmm. Donc on recommande de le configurer à synchroniser avec source externe, quand on dit externe vraiment de la forêt, mm-hmm. Une source de temps fiable. Mm-hmm. À ce moment-là, tous nos autres contrôleurs de domaine et nos clients Windows dans l'environnement AD vont utiliser un service de temps avec un paramètre qui s'appelle NT5DS. Mm-hmm. Donc ce service de temps est géré par un service qui s'appelle W32 Time et qui va automatiquement suivre une hiérarchie de synchronisation qui remonte donc au PDC Emulator racine de notre forêt. Et on maintient donc une synchronisation de temps bonne et fiable à travers tous les objets ordinateurs, ouais. Donc DC ou clients de notre forêt. Au même moment, puisqu'on parle de cette importance de synchronisation de temps et d'avoir un temps exactement pareil sur tous nos contrôleurs et nos serveurs, c'est le fait que Kerberos et donc les centres de distribution de tickets, mm-hmm. s'ils considèrent qu'il y a plus de 5 minutes de différence entre le client et le serveur, ils n'attribueront pas le ticket de sécurité Et donc, qui dit pas de ticket Kerberos, dit pas d'authentification ni utilisation des ressources.
Donc là, il faut éviter deux écueils et deux problématiques classiques dans les problèmes de configuration de temps. Ça va être l'admin qui va se dire bah, « je vais donner une source de temps sur tous mes DC ». Donc surtout pas le PDC émulateur de la racine de
la
forêt.
À la fonction qu'il faut pour maîtriser et gérer le temps venu de l'extérieur.
Voilà, et on ne touche surtout pas aux autres. Par défaut, quand ils sont promus UDC, ils utilisent la hiérarchie du domaine. Et on n'y touche surtout pas. Deuxième chose, au niveau du temps, écueil très 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 classique, j'ai envie de dire malheureusement, c'est que quand on a des contrôleurs domaines qui sont des machines virtuelles, on ne synchronise absolument pas le temps avec l'hyperviseur. On prend comme référence de temps uniquement la hiérarchie du domaine. Donc quand on va dans les services d'intégration, si on parle d'Hyper-V, on va décocher le service Time Synchronization avec la VM, avec l'hyperviseur. On ne veut absolument pas que le temps soit donné par l'hyperviseur, ce qui est le cas par défaut. Et ce qui du coup peut causer des désastres parce qu'on va avoir des synchros.
L'hyperviseur change de date.
Voilà. Donc très très important à avoir. Et puis enfin, un dernier élément important, c'est les performances, sur lesquelles il faut s'assurer que le DC soit toujours un petit peu responsive, comme on dit hein, en anglais, qu'il ne réponde pas à une requête LDAP 5 minutes après qu'on lui ait posé la question. C'est un cas qui peut être relativement connu. Donc les erreurs communes, ça peut être perte d'un service qui n'arrive pas à démarrer, espèce de disque faible, dégouler d'étranglement dans le système, par exemple le disque dur qui est en train de gratter comme un malade pour faire autre chose que de l'Active Directory, par exemple à cause d'un antivirus ou d'un autre composant du système, et dans ce cas-là, les IO disques sont utilisés pour autre chose que l'AD, ce qui est plutôt embêtant pour un DC. Les gestions des journaux des événements qui sont pas faites, enfin qui sont laissées à l'abandon, une taille qui peut être trop grande aussi, ça c'est un cas classique. Quand on est sur des noyaux 32 bits, on a une recommandation qu'on a une taille agrégée de l'ensemble des journaux d'événements des
passants. 300 mégas.
300 mégas, voilà. Donc ça c'est quelque chose de très important qu'on doit régler la taille des journaux d'événements. Noyaux 32 bits, ça veut dire pas plus de 300 mégas. Avec des noyaux 64 bits, on peut aller jusqu'à 4 gigas pour les logs effectifs en mémoire. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Synchronisation de temps, on vient d'en discuter. DC non mis à jour avec les derniers patchs de sécurité. Donc ça, problématique en matière de sécurité. Et puis on a aussi les service packs et les roll-up qui est important d'appliquer pour avoir les fixes là, fonctionnels cette fois-ci, de comportements qui ont été corrigés parce qu'il y a des bugs ou des choses qui ont été découvertes. Donc appliquer les derniers roll-up, hein, parce que la notion de service pack s'applique plus maintenant, mais au moins la notion de roll-up ponctuellement corrige de manière cumulative l'ensemble des erreurs qui ont été trouvées. Maintenant, de la base AD, Nadim, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette base NTDS.dit?
Donc cette base NTDS.dit, comme on lisait dans d'autres modules, elle utilise le process LSASS, hein, qui est un process protégé. Cette base NTDS.dit va être défragmentée de façon online toutes les 24 heures. Et on peut faire une défragmentation offline. Celle-ci, elle est faite manuellement si on considère que notre base, on peut le vérifier via des journaux d'événements au moment où on a une base qui est très peu défragmentée, de gagner donc de l'espace et des performances. Nous pouvons avoir des objets obsolètes qui n'ont pas été supprimés. Nous pouvons avoir énormément d'enregistrements DNS obsolètes qui polluent l'Active Directory. Donc la maintenance de cette base NTDS.dit est très importante pour une meilleure performance. Un autre point important, c'est le fait d'avoir un contrôleur de domaine qui fait que contrôleur de domaine pour avoir une CPU qui est utilisée, on va dire, majoritairement par LSASS et par l'Active Directory. Si nous avons d'autres applications qui vont en quelque sorte polluer, utiliser la CPU, donc automatiquement derrière, nous pénalisons le bon fonctionnement de notre Active Directory.
Donc, au niveau des recommandations, superviser la taille de la base AD, surtout regarder un petit peu comment elle évolue dans le temps. Si par exemple, en 6 mois, elle est passée de 1 giga à 6 giga, il est fort probable qu'il y ait des nouvelles choses qui se passent sur votre AD et qu'il serait souhaitable d'étudier de plus près. Donc c'est des choses assez bêtes comme ça à dire, mais mettre en place ces outils qui permettent de superviser la taille de la base. Il y a des composants qui historiquement ont été connus pour faire grossir de manière forte la taille de la base. Donc par exemple en Windows 2000, on avait un truc qui s'appelait le Distributed Link Tracking, qui permettait de suivre les changements des liens OLE dans Windows.
Qui est désactivé par défaut en Windows 2003.
À partir de 2003.
Qui a pu peut-être créer énormément d'objets qui n'ont jamais été supprimés. Mm. Vous avez un article technique, vous pouvez chercher par DLT Purge, mm-hmm. c'est un script, un VBS que vous pouvez appliquer qui va supprimer tous ces objets obsolètes et donc diminuer le nombre d'objets dans votre Active Directory. Les ACL, donc les permissions sur la zone racine donc, de votre Active Directory, pourquoi ne pas trop modifier parce que, encore une fois, en 2000, on créait des objets de 7 mégas à chaque fois qu'on hériter ces ACL. Mm-hmm. On a corrigé, on va dire, on a amélioré plutôt cela en Windows 2003 en ayant un pointeur de tous les sous-conteneurs qui pointent vers les ACL racines mm-hmm. pour éviter encore d'augmenter la taille de la base. Mm-hmm. Nous avons des espaces blancs qui sont créés pour interpréter les suppressions dans les défragmentations online et ceci est supprimé uniquement par la défragmentation offline. Ouais. Donc nous avons pas mal chose pour améliorer la performance, sachant que la base NTDS.NET est en cache mémoire au maximum. Donc nous avons une base assez optimale, nous avons une meilleure gestion de la mémoire.
Ouais. Autre chose fondamentale, suppression des comptes inutilisés. Alors ce qu'on dit, hein, c'est qu'il y a deux choses. Les comptes machines. On peut se dire, après 60 jours qu'un compte machine n'a pas été utilisé, il est quand même assez probable qu'on ne le revoie plus. Donc on peut purger l'objet dans l'Active Directory. Il y a des Active Directory qui ont accumulé comme ça toutes les machines qui sont apparues dans l'histoire du domaine. Et puis c'est complètement inutile. Donc pour ça, il y a différents scripts sur TechNet qui permettent de lister en fait et de dumper l'ensemble des objets computer et l'ensemble des objets user. Et puis de faire un petit tri comme ça par rapport au temps. Et puis de pouvoir déterminer quelles sont les machines ou les utilisateurs qui sont plus pertinents. Alors pour les machines, On peut trier comme ça, hein, les machines qui ne sont pas utilisées depuis longtemps. On peut utiliser soit la date de création, la date de dernière mise à jour, ou le last logon timestamp, avec différents niveaux de fiabilité selon les versions d'OS, mais à partir de 2003, ça commence à être fiable, ce last logon timestamp sur l'objet compte. De la manière pour la partie utilisateur. Si on est un utilisateur qui ne s'est pas logué depuis plus d'un an et qui est toujours actif et qui, a fortiori en plus, est administrateur de leur organisation, on peut se dire qu'il y a sans doute une petite purge à faire dans l'environnement de nos clients.
Pour te rejoindre Arnaud, je dirais que le fait de nettoyer, effectivement, on optimise notre base NTDS.NET, mais aussi on évite certaines problématiques comme problématique qui s'appelle Duplicate SPN, hein, donc les Service Principal Name qui nous permettent d'avoir un ticket Kerberos. Dans certains cas, nous nous retrouvons avec des duplicats parce que nous avons des anciennes machines qui ont le même nom NetBIOS ou une partie du nom DNS qui est similaire. Et donc, du même coup, quand nous avons des enregistrements DNS en dupliqué avec donc la même adresse IP et différents noms, ça peut causer des problèmes dans notre fonctionnement d'Active Directory. Donc, le nettoyage de notre base est quelque chose de primordial pour l'optimisation de la base, mais mm-hmm. aussi pour éviter certains problèmes de fonctionnement.
Et puis même encore plus basiquement, j'ai envie de dire, problème de sécurité. Un compte
qui
est plus utilisé et qui est privilégié, c'est relativement problématique dans l'environnement. On vous passera la litanie sur les comptes privilégiés dans son domaine, hein, qui doivent être à minima, autant que faire se peut, et pas forcément des comptes de service privilégiés à diminuer au maximum sur un environnement. Allez, plutôt que de discuter encore plus davantage dans ces considérations théoriques, on aime bien hein, des petits outils comme ça sympathiques qui nous permettent de vérifier l'état de santé dans l'environnement de manière simple et rapide. On a déjà discuté un petit peu de DCDiag tout à l'heure pour la partie DNS. On peut utiliser la même chose pour faire un état de santé global des DC de l'entreprise. Alors là, si on prend l'exemple de DCDiag slash S, on lui donne un serveur de base, slash Q slash E, il va vérifier l'ensemble des décès de l'entreprise de manière silencieuse avec ces deux switches-là. Donc là, super simple. Sauf que ben, ça peut être très long à exécuter si on a plusieurs centaines de DC comme on l'a dans des grosses entreprises. Mais DC-Diag, ça reste toujours un bon point de départ pour voir ce qui se passe dans un environnement.
Nous avons un diagnostic assez complet avec cet outil, que ce soit pour la réplication, pour les journaux d'événements, pour les rôles FSMO, mm-hmm. pour la synchronisation en temps, bien entendu, pour l'USN, s'il y a des soucis avec ceci, pour le Kerberos. Donc, c'est un premier point de vérifier l'état de santé du contrôleur de domaine de façon assez… Un petit exemple des différents tests qui sont passés. Donc, on l'a vu dans le module DNS où on a spécifié le test. Mais si on n'a pas une spécification du test, nous avons des informations sur énormément de tests. Le compte machine, les rôles FSMO, le sysvol,
le KCC.
Le KCC, bien entendu, le netlogon, le read manager.
Voilà. Les services.
Et si on a quelques erreurs, c'est que nous avons quelques événements qui sont remontés par rapport au système ou au sysvol qui sont présents ici.
Donc très très bon point de départ pour commencer une exploration de l'état de santé d'un environnement qui permet ensuite d'aller plus loin vers les différents aspects. Hein.
Si nous avons passé toute la partie résolution de nom, les différents services de l'Active Directory, les réplications et nous avons toujours une problématique au niveau de notre fonctionnement, à ce moment-là, on a grande chance que ça vienne des performances et de la configuration du serveur qui héberge ce service Active Directory, Directory Services. Et à ce moment-là, qui dit état du serveur, dit performance. Donc Arnaud va nous faire une petite démo. Il y a un outil très puissant aussi qui s'appelle PAL.
Très honnêtement, on est entre nous. C'est vrai que l'analyse des performances d'un DC, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus passionnant dans la vie. Hein.
Ça dépend. À qui tu le dis, hein.
Ça dépend effectivement des passions. Hein. Il y en a qui peuvent en dédier une vie. On n'a pas forcément cette ambition tous dans la vie. Donc pour faire ça, il y a des choses qui peuvent être automatisées. C'est-à-dire que globalement, aller analyser chaque compteur du disque, voir que le disque répond en écriture ou en lecture à un minimal de telle valeur, aller regarder qu'il n'y a pas de processus qui se crée de tous les côtés sur mon DC et calculer qu'en fait mon DC, il fait beaucoup plus de choses en dehors du DC que du rôle DC en tant que tel. C'est aller voir par exemple si le process LSASS fait par exemple 1% de session CPU et puis qu'on a un autre process qui utilise en permanence 20% de session CPU.
Là, notre recommandation, c'est d'avoir moins de 30% de LSASS CPU par rapport à la CPU globale. Si nous avons une différence de plus de 30%, disons qu'elle est à 20% la LSASS CPU et que la CPU globale elle est à 70-80%, c'est qu'il y a un autre process qui nous pollue le bon fonctionnement de notre Active Directory.
Yes. Alors, pour prendre des éléments de performance sur un contrôleur de domaine ou sur une toute machine Windows Server, il y a ce qu'on appelle Perfmon. Perfmon peut être automatisé pour prendre des traces et dire voilà, entre telle heure, je vais faire telle opération de capture de tel et tel compteur. On n'a pas forcément la connaissance de quel et quel compteur on doit prendre et comment est-ce qu'on doit les analyser. Pour ça, il y a un outil qui a été développé par des collègues, confrères de premier field engineering, et ça s'appelle PAL, donc Performance Analysis of Log.
Effectivement, si vous avez de la supervision en place, type System Center, et vous avez le package de supervision Active Directory, vous avez bien entendu les compteurs importants qui remontent, etc. À partir du moment où on rentre dans le troubleshooting, c'est-à-dire qu'on a déjà déterminé qu'il y a un problème de performance, mais on souhaite tuner et trouver vraiment quels sont les process ou à quel moment ou par quels moyens nous pouvons résoudre ce problème, à ce moment-là, c'est intéressant d'utiliser cet outil qui est disponible.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va utiliser PAL pour créer un template de prise de performance, donc dire je veux tel et tel compteur. Ensuite, on va automatiser cette prise de compteur de performance avec un utilitaire qui s'appelle Logman, qui peut être utilisé à distance et qui va permettre de déclencher des prises de traces. Et puis, à partir de cette trace, de ce fichier Perfmon, donc d'un format BLG, on va en transformer automatiquement un rapport qui est humainement exploitable, entre guillemets, puisqu'il y aura encore un petit peu de travail d'analyse à faire, mais le plus gros sera fait. Allez, on regarde à ça. Donc on va aller sur ma machine et j'ai installé déjà au préalable cet utilitaire sur mon environnement. Donc là, je vais aller sur mon laptop et je vais lancer l'utilitaire PAL. Donc c'est un petit assistant qui va me permettre effectivement de, dans un premier temps, gérer en fait les éléments que je veux tracer. Donc là, je vais dans la partie Threshold Files et puis je dis voilà, je veux faire un troubleshooting. On voit que c'est assez riche, hein, il y a quasiment tous les rôles de produits Microsoft. Je veux faire un troubleshooting de Microsoft Active Directory. Donc là, à partir du moment où je fais ça, je fais Export to Perfmon Template File et là, ça va m'exporter un fichier XML que je vais pouvoir utiliser sur mon serveur, importer et faire un scénario de tracing. Donc là, je l'ai déjà fait au préalable, je vous ai exporté ça sur mon serveur. Donc on va aller voir, hop, sur mon serveur ici, sur mon contrôleur de domaine, qu'est-ce qui se passe. Et je vais lancer Perfmon. Pardon, je vais le taper correctement. Et puis je vois dans Perfmon que j'ai effectivement mes composants de tracing en live habituel. Donc c'est le Perfmon que je connais ici, où j'ai le processor time qui est utilisé par ma machine. Donc les éléments en live, j'en ai pas forcément envie. Et puis là, j'ai un ensemble d'éléments qui sont d'ores et déjà créés. Donc là, j'avais pris Arnaud parce que je l'avais créé juste auparavant. On va le supprimer. Et là, il y en a également du système qui sont présents ici par défaut. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, mon fichier XML que j'avais généré sur mon desktop, et bien en fait, je vais l'importer ici sur mon serveur. Donc pour ça, en fait, je fais logman import -n Arnaud-XML, c'est le format de mon fichier. Et puis ici, je dis, ça doit être Active Directory, je dois avoir ArnaudAD.xml. Tac, donc là, command completed successfully. Je vais, hop, bazarder mon PowerShell, j'en ai plus besoin. Et là, j'ai bien mon compteur Arnaud que j'avais défini tout à l'heure, mon user defined. Et ce user defined, il va contenir quoi? Il va contenir différents types comme les informations sur le cache, sur les disques logiques, et puis des choses qui sont relatives aux cartes réseau, et puis évidemment à NTDS, et puis au processus et au disque. Hop. Donc on va là-dedans, on va pouvoir générer les propriétés de cette trace et dire que par exemple la condition de stop, ça va être que au bout de par exemple 15 minutes, eh bien je vais arrêter la trace, ou alors je vais dire que je vais arrêter la trace, mais si elle fait plus que 100 mégas, alors j'arrête les désastres parce que j'ai pas envie de remplir mon DC avec un log de tracing. Donc je vais faire ça, et puis à partir de là, soit je peux lancer ça à la main sur l'interface graphique, ou alors je peux également utiliser le contexte logman, et dans ce cas-là, je fais logman start Arnaud, et il va tracer ce qui se passe dans ce scénario-là que j'ai défini, et puis il va me stocker ça dans mon contrôleur de domaine, dans la partie perflog, système, performance, et on voit que là, on a des exécutions préalables que j'ai fait de ces différents tests. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ici le fichier BLG. Donc là, j'ai récupéré un fichier BLG d'un test précédent que j'avais fait le 11 novembre sur cet environnement-là, et donc c'est un fichier BLG qui fait 11 mégas. Et là, tu me dis, Nadim, miam miam. Parce que un fichier BLG de 11 mégas,
qu'est-ce que tu vas faire avec?
Quand on l'ouvre, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne ça.
Très belle couleur.
Donc, c'est de l'art moderne, hein. Mais ça peut avoir un effet psychédélique si on fait des zooms avant et arrière, comme ça, si on tourne un peu l'écran également. Ça peut donner lieu à toutes sortes de visions, mais avouons-le, c'est pas simple
à interpréter.
Ouais, c'est pas simple à interpréter. Donc ce que j'utilise et ce que je recommande, c'est que en fait, une fois qu'on a fait ce fichier BLG, au lieu de l'ouvrir avec Perfmon, on retourne dans PAL. Et dans PAL, en fait, on va lui dire counter log, et là on dit counter log path. Et donc là, on nous dit voilà, ce fichier log que j'ai pris sur mon serveur distant, je le prends ici. Je réponds à quelques questions comme le type de plateforme, est-ce que c'est un OS 64 bits Windows, est-ce que c'est du 32 bits Windows 2003, ce qui va permettre de faire le split correct des différents compteurs. Donc ici c'était du 2012 dans mon environnement. Je détaille la mémoire physique qui est installée sur ma machine. Ensuite je dis génère-moi un rapport dont tu vas générer automatiquement l'échelle de temps. Tu vas envoyer ça dans tel répertoire sous format de fichier XML, et puis QU, ça c'est l'argument qui va être donné, et puis execute. Donc là, il va faire le processing du rapport que j'ai fait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il pourra prendre le fichier BLG, il va aller faire un split dans l'ensemble des fichiers BLG, analyser si par exemple le disque répond à plus ou moins 15 millisecondes. 15 millisecondes, c'est un seuil important pour le disque. On estime que si un disque prend plus de 15 ms à répondre, bah, c'est un petit
ça
peu...
Ça commence à être un avertissement.
Ça commence à être un petit peu lent, ouais. Donc, il va faire une analyse pour nous de tout ça. Il va nous représenter ça également de manière graphique. Ça prend, très honnêtement, un petit peu de temps. Donc, je vous ai préparé le travail. Je dois en avoir un qui est déjà prêt par ici. Donc, ça, c'est le rapport qui est généré par PAL. Et là, on voit que déjà, on a un rapport synthétique qui nous dit, voilà, par rapport à l'exécution dans le temps, il y a quand même quelques points problématiques qui se sont passés ici à 11h40, donc en rouge et en orange, différents points. Maintenant, si on va dans la partie détaillée, on a des informations qui, oui, au niveau du disque, il y a deux alertes à ce moment-là. Il y a deux alertes de moindre importance en matière de mémoire. Et puis là, on a ensuite un résumé des paramètres et de ce qui a été trouvé comme erreur. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Possible memory link, plus de 250 mégas ont été changés par un process. Donc là, il voit que s'il prend le nombre total de private bytes, donc de mémoire qui est attribuée à des processus dans Windows, ben il a détecté qu'il y avait une allocation un peu sur une pente qui était un process qui était vachement consommateur et qui commençait à avoir une tendance à ouvrir beaucoup de mémoire. Est-ce que c'est problématique ou pas? Bah, tout dépend de l'activité du serveur. Hein. Si c'est l'Active Directory, ça peut être bien. Si c'est un process qui n'est pas lié à l'Active Directory, ça peut être embêtant. Maintenant, si c'est l'Active Directory qui ouvre plein de mémoire, bah, on sait que l'Active Directory va tenter de tout ouvrir en mémoire si c'est possible. Donc ça peut être normal, hein, un début et un lancement de DC. Là, on a un possible handle link, donc le nombre d'ouvertures de fichiers ou de handles sur le système qui a l'air important à un moment donné. En tout cas, il y a une grosse accélération. Et puis, on voit que cette chose a l'air quand même de se passer de manière plus ou moins redondante, cette croissance sur les handle leaks. Donc là, mon système, sans doute, il est en train de faire beaucoup de choses sur le disque. Qu'est-ce qui nous confirme là? Il nous dit, voilà, il y a plein d'IO qui est en train de se faire sur le disque, ici, ou sur le réseau. Donc il y a le process else service qui est en train de faire ça et monitoring host qui sont en train de faire ça. Donc il me conviendra en tant qu'admin AD, en tant que bon admin AD d'aller
regarder de quoi il s'agit.
Voilà. Donc ici, manque de bol, il s'agit du service monitoring de mon operation manager qui a l'air d'avoir une activité un petit peu élevée sur mon serveur. Donc qu'est-ce qui se passe? Et puis là, je vais voir qu'effectivement, j'ai plus de 50% d'utilisation de processeur à un instant donné sur mon serveur et que j'ai aussi également des opérations d'écriture sur le disque qui prennent plus que 15 ms. Donc là, on commence à être dans la zone jaune et mon disque C, il a pris pour un pic 24 ms pour répondre à des IO. Et donc là, on dit que le DC commence à être quand même un petit peu charrette. Donc, il faut systématiser ça. Hein. Là, sur un petit échantillon, on ne peut pas forcément faire des conclusions générales, mais si c'est la valeur moyenne qui est au-dessus de 15 ms, là, ça commence à être super, super chaud pour ce contrôleur de domaine-là. Donc, on a comme ça un détail sur l'ensemble des éléments qui peuvent nous intéresser concernant l'état de santé de mon DC. Hop, je dézoome un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va regarder dans ce rapport, on peut même le faire au doigt, hein, si tu remarques, eh bien, on a des visions graphiques qui nous permettent de dire, bah voilà, l'espace disque, c'est OK sur le disque. Par contre, là, je vois qu'effectivement, au niveau de
mon lecture et écriture sur le disque, nous avons quelques pics à certaines heures où c'est pas.
Ouais, où c'est pas normal. Donc c'est à moi d'investiguer après. Hein.
Exactement.
Là, pareil, sur les autres disques. Je ne sais pas si tu vois le barre de l'ascenseur à gauche là, qui nous dit qu'il y a pas mal d'autres lectures, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un split détaillé pour l'ensemble des processus quand on va à la fin du rapport, de dire bah voilà, tel et tel processus a telle activité sur mon système, donc on peut troubleshooter ce qui se passe en profondeur sur l'environnement. Donc beaucoup plus sympa que ça. Je crois que tu ne contesteras pas.
Il n'y a pas photo.
Voilà. Donc très très important, PAL, Performance Analysis of Log, pour récupérer des informations avec des templates bien spécifiques et en faire, en tirer signification rapidement. Voilà, sur ce module, on a été rapide volontairement hein, pour vous donner un petit peu un appétit sur ces différents sujets, ces différents secteurs d'investigation complémentaires par rapport à l'état de santé de vos DC. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Le service de temps, très très important. Utilisation de la hiérarchie, comme tu nous l'as décrit, Nadim.
Et puis, la maintenance de cette base Active Directory, maintenance des objets ordinateurs, objets utilisateurs, obsolètes, avoir une organisation d'ajout de machines et d'utilisateurs ou de groupes, mais avoir aussi la même organisation pour le retrait de ces machines, de ces utilisateurs, de ces groupes, éviter donc d'avoir des objets non utilisés dans l'AD qui ne sont pas nettoyés, penser des fois à des fragmentations offline si c'est nécessaire, s'assurer que votre contrôleur de domaine puisse faire que contrôleur de domaine au mieux des cas. Avoir moins de contrôleurs mais très performants que d'avoir beaucoup plus de contrôleurs et moins performants.
Quantifier les performances d'un contrôleur de domaine, hein, si on n'a pas forcément d'Operation Manager ou d'outils de monitoring avancés, j'ai tendance à dire ce qui est pas mal quand même à faire, c'est un petit baseline, par exemple une baseline mensuelle, de regarder comment les performances évoluent à travers le temps. C'est-à-dire que ben voilà, mon DC il était à tel moment, il répondait avec telle rapidité sur les requêtes, maintenant il a pris tel.
Effectivement, à partir de Windows 2012, nous avons cette possibilité d'avoir ce qu'on appelle le Best Practice Analyzer, qui donne quand même une certaine vue assez poussée sur l'état de santé du contrôleur de domaine.
Eh bien, merci Nadim pour un petit peu ces connaissances, ce transfert d'expertise sur ces différents éléments de l'Active Directory. On le rappelle que ce cours, on a vu essentiellement la notion geekesque hein, de l'Active Directory, mais c'est bien d'autres éléments qui concernent l'état de santé de l'Active Directory, notamment toutes les procédures qui sont autour d'un environnement Active Directory. Donc pour ça, il y a deux choses. Hein. Dans ton organisation, dans Premier Field Engineering, dans PFE, on sait aller chez un client pour évaluer l'état de santé de leur Active Directory.
Nous avons des bilans de santé et analyses de risque de l'Active Directory à travers donc une collecte d'informations, des outils utilisés dans notre espace cloud, ainsi que les meilleures pratiques, les recommandations que nous récoltons tous les jours à travers le monde chez nos clients, que nous essayons d'améliorer aussi dans nos prochains produits, donc dans les futures versions d'Active Directory. Nous prenons vraiment compte de ce qui est dans vos environnements. Donc, d'un côté, effectivement, nous faisons pas mal d'analyses de risque et de bilan de santé. C'est important d'avoir une idée une fois par an de l'état de santé et d'une vue extérieure par des experts Microsoft. Et d'un autre côté, effectivement, nous faisons que ce soit dans nos locaux, chez nos clients premiers, des workshops, donc des ateliers, dont un qui est vraiment poussé par rapport à tous ces différents modules, un peu plus en détail avec des.
Donc c'est sur combien de jours ?
Des labos. C'est sur 4 jours.
Voilà, donc.
Avec ces 4 mêmes modules, mais sur 4 journées. Avec,
un peu plus labos. De détails, je pense.
Un peu plus de détails, plus d'interactions, plus de retours d'expérience et forcément plus de temps pour en discuter, pour partager les différentes expériences sur les centaines d'Active Directory que nous pouvons analyser.
Ouais, c'est l'occasion pour un client de venir discuter avec toi, dire tiens, j'ai vu tel truc, est-ce que ça te paraît correct ou est-ce qu'éventuellement il y aura un truc suspect et dans ce cas-là, comment est-ce que je peux regarder ou alors est-ce que tu peux venir regarder chez moi si mon Active Directory se passe bien.
Effectivement.
Donc Active Directory Troubleshooting, qu'on ne saurait trop vous recommander. Si vous avez aimé ces 4-5 heures qu'on a passées ensemble sur MVA, bah, vous allez adorer le workshop. En tout cas, ça nous a fait très plaisir de t'accueillir, Nadim, dans ce cours MVA.
Merci Arnaud de m'avoir invité et me donner ce temps-là pour partager avec toi notre retour d'expérience et quelques meilleures pratiques sur les services annuels Microsoft Active Directory.
Eh bien, c'est un vrai plaisir. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires sur MVA. Vous pouvez utiliser le mot dièse ou le hashtag cours MVA, donc dièse cours MVA. Et puis, vous pouvez également interagir directement avec nous. Donc, en l'occurrence ici, moi, Arnaud, @ArnaudLheureux. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce cours, si vous ne l'avez pas aimé. Si vous ne l'avez pas aimé, bah, dites-nous pourquoi et puis on l'améliorera. Je pense que c'était une très bonne opportunité de t'avoir, Nadim, et qu'on renouvellera cette expérience sur MVA avec
Merci,
grand plaisir.
Arnaud. J'espère que tout le monde va aimer notre session. Et on partagera d'autres tips sur l'Active Directory une autre fois et sur la migration par exemple.
Allez, merci beaucoup et à très bientôt sur MVA.